Chapitre 2e. La casquette grise. L'employé de la gare et deux voisins réveillés par le bruit accoururent. L'un d'eux avait le téléphone chez lui. Victor le pria d'avertir le commissariat de Saint-Cloud. L'autre alla quérir un docteur qui ne put que constater la mort du père Lescot, frappé d'une balle dans la région du cœur. Édouin, dont la blessure n'était pas grave, fut transporté à Paris. Lorsque le commissaire de Saint-Cloud arriva avec ses agents, Victor, qui avait veillé rigoureusement à ce que rien ne fût dérangé, le mit au courant du drame. Ils jugèrent tous les deux qu'il était préférable d'attendre le jour pour relever les traces laissées par les deux complices, et Victor retourna chez lui à Paris. Dès 9 heures, il revint aux nouvelles et trouva la bicoque entourée d'une foule de curieux que les agents tenaient à distance. Dans le jardin où il pénétra, et dans le pavillon, s'agitaient d'autres inspecteurs et des gendarmes. L'arrivée du parquet de Versailles était signalée, mais on assurait qu'il y avait contre-ordre de Paris et que l'instruction serait réservée au parquet de la Seine. Soit par un entretien qu'il eut avec le commissaire de Saint-Cloud, soit par ses recherches personnelles, Victor acquit quelques certitudes, plutôt négatives, car en somme, l'affaire restait fort obscure. D'abord, aucune indication sur l'homme qui avait fui par le rez-de-chaussée, ni sur la femme qui avait fui par la fenêtre. On découvrit bien l'endroit où la femme avait franchi la haie pour gagner la rue parallèle à la route. Et l'on découvrit aussi les empreintes laissées par les montants de l'échelle au-dessous du premier étage. Mais l'échelle, qui devait être en fer, pliante et portative, demeura introuvable. Et l'on ne sut pas comment les deux complices s'étaient rejoints et comment ils avaient quitté la région. Tout au plus put-on établir qu'une automobile avait stationné, à partir de minuit, 300 mètres plus loin, le long du haras de la Selle Saint-Cloud, et qu'elle s'était remise en marche à 1h15, évidemment pour retourner à Paris par Bougival et les bords de la Seine. Le chien du père Lescot fut retrouvé dans sa niche, mort, empoisonné. Aucune trace de pas sur le gravier du jardin. La balle, extraite du cadavre, ainsi que la balle extraite de l'épaule de l'inspecteur Édouin, provenait d'un Browning de 7,65 mm, mais qui était devenu le Browning. En dehors de ces petits faits, rien. Victor s'attarda d'autant moins que les journalistes et les photographes commençaient à sévir. D'ailleurs, il avait horreur de travailler en compagnie et de perdre son temps, comme il disait, en hypothèses dialoguées. Seul l'intéressait la psychologie d'une affaire et ce qu'elle exige de réflexion et d'intelligence. Pour le reste, démarche, constatation, poursuite, filature, il ne s'y livrait qu'à contre-cœur et toujours en solitaire, pour son propre compte, aurait-on dit. Il passa chez l'employé de la gare, vaillant, dont la femme, revenue de Versailles, prétendit ne rien savoir et ne pas avoir reconnu l'individu qui rôdait près de la bicoque au cours des soirées précédentes. Mais Vaillant, qui reprenait son service, le rattrapa devant la gare et accepta d'entrer au café des sports. « Voyez-vous, dit-il, dès que l'apéritif eut délié sa langue, Gertrude, ma ménagère, Gertrude, comme porteuse de pain, va dans les maisons et, si elle jaspine, ça lui retombe sur le dos. Moi, c'est autre chose. Comme cheminot, comme fonctionnaire, je dois aider la justice. Et alors ? Alors, fit Vaillant en baissant le ton, voici en premier lieu la casquette grise dont elle m'avait parlé et que j'ai ramassée sous des orties et un dépôt d'ordures que je nettoyais ce matin dans un coin de mon enclos. Le type, en se sauvant cette nuit, l'a rachetée au hasard par-dessus ma haie. Ensuite, Gertrude est certaine que le type de mardi soir, donc le type à la casquette grise, est un monsieur où elle porte le pain tous les jours, un monsieur de la haute. Son nom ? Le baron Maxime d'Autray. Tenez, penchez-vous sur la gauche, la maison, la seule maison de rapport sur la route qui va à Saint-Cloud, 500 mètres d'ici peut-être. Il occupe le 4e étage avec sa femme et leur vieille bonne. Des gens très bien, un peu fiers peut-être, mais si bien que je me demande si Gertrude ne s'est pas blousée. Il vit de ses rentes. Fichtre non, il est dans les vins de Champagne. Chaque jour il file à Paris. Et il en revient à quelle heure ? Par le train de 6 heures qui arrive ici à 19. Lundi dernier, il est revenu par ce train-là ? Pas de doute, il n'y a qu'hier où je ne peux rien dire puisque je conduisais ma femme. Victor se taisait. L'histoire pouvait s'imaginer ainsi. Le lundi, dans le compartiment du train de 6 heures qui la ramène de Paris, la dame Chassin s'est assise près du père Lescot. D'habitude, épouse en instance de divorce, elle s'abstient de parler à son amant quand elle n'est pas avec sa mère. Ce lundi-là, elle a volé, par un mouvement involontaire, l'enveloppe jaune. Tout bas, sans en avoir l'air, elle l'avertit qu'elle a un dépôt à lui confier, et peu à peu, elle lui glisse l'enveloppe qu'elle aura eu le temps peut-être de rouler et de ficeler. Ce geste, le baron d'Autré, qui est dans la voiture, le surprend. Il a lu les journaux, une enveloppe jaune. Est-ce que par hasard ? À Saint-Cloud, la dame Chassin s'en va. Le père Lescot continue jusqu'à Garches. Maxime d'Autray, qui descend aussi à cette station, file le bonhomme, repère son logis, rôde, le mardi et le mercredi autour de la bicoque, et le jeudi se décide. Une seule objection, pensa Victor, après avoir quitté son compagnon et tout en se dirigeant vers l'immeuble désigné. Tout cela s'enchaîne trop bien et trop vite. La vérité ne s'offre jamais aussi spontanément et n'a jamais ce caractère simple et naturel. Victor monta au quatrième étage et sonna. Une bonne âgée avec des lunettes et des cheveux blancs ouvrit et, sans lui demander son nom, l'introduisit dans le salon. « Faites passer ma carte, » dit-il simplement. La pièce, qui servait aussi de salle à manger, ne contenait que des chaises, une table, un buffet et un guéridon, tout cela médiocre d'apparence mais reluisant de propreté. Des images de piété au mur, sur la cheminée, quelques livres et des brochures de propagande religieuse. Par la fenêtre, une vue charmante sur le parc de Saint-Cloud. Une dame apparut. L'air surpris, une dame encore jeune, coupe rosée, sans poudre de riz, démodée d'aspect, avec une poitrine abondante, une coiffure compliquée et une robe de chambre défraîchie. Malgré tout, l'ensemble n'aurait pas été déplaisant, n'eût été une expression volontairement hautaine et un port de tête qui devait être, dans son idée, celui d'une baronne. Ce fut bref. Debout, la voix distante, « Vous désirez, monsieur ?»« Je voudrais parler au baron d'Autray, relativement à certains faits qui se sont produits lundi soir dans le train. Il s'agit sans doute du vol de l'enveloppe jaune, que nous avons lu dans les journaux. Oui, ce vol a eu pour conséquence un assassinat commis cette nuit à Garches, et dont la victime est un monsieur Lescot. »« Un monsieur Lescot, » répéta-t-elle sans le moindre émoi. « J'ignore absolument, et l'on a des soupçons. » Aucun jusqu'ici, mais je suis chargé de m'enquérir auprès des personnes qui ont voyagé lundi de Paris à Garches par ce même train de 6 heures. Et comme le baron d'Autray, mon mari vous répondra lui-même, monsieur, il est à Paris. Elle attendait que Victor sortirât, mais il continua. Monsieur d'Autray sort quelquefois après son dîner, rarement. Cependant, mardi et mercredi, en effet, ces 2 jours-là, ayant mal à la tête, il a été faire un tour. Et hier soir, jeudi, hier soir, ses occupations l'ont retenu à Paris, où il a couché. Mais non, il est revenu. À quelle heure ? Je dormais. J'ai entendu, un peu après son retour, sonner 11 heures. 11 heures, donc 2 heures avant le crime. Vous affirmez ? La baronne, qui avait répondu jusqu'ici machinalement, avec une politesse hargneuse, une intuition soudaine de ce qui se passait, jeta un coup d'œil sur la carte de Victor de la brigade mondaine, répondit sèchement, mais sans comprendre alors, « J'ai coutume de n'affirmer que ce qui est. Vous avez échangé quelques paroles avec lui ? Certes. Vous étiez donc réveillé tout à fait. » Elle rougit comme prise de pudeur et ne répliqua point. Victor poursuivit, « À quelle heure le baron d'Autray est-il parti ce matin ? Quand la porte du vestibule s'est refermée, j'ai ouvert les yeux. La pendule marquait 6 h 10. Il ne vous a pas dit adieu ? Cette fois, elle s'irrita. C'est donc un interrogatoire. Nos recherches nous obligent parfois à une certaine indiscrétion. Un dernier mot ? Il tira de sa poche la casquette grise. Est-ce que vous croyez que ceci appartienne à M. d'Autray ? Oui, dit-elle en examinant l'objet. C'est une vieille casquette qu'il ne mettait plus depuis des années et que j'avais rangée au fond d'un tiroir. Avec quelle sincérité distraite elle fit cette réponse si accablante pour son mari. Mais d'autre part, une telle bonne foi ne marquait-elle pas que, sur les points essentiels, elle n'avait pas menti davantage ? Victor prit congé en s'excusant de son importunité et en annonçant sa visite pour la fin de la journée. Son enquête auprès de la concierge, qu'il trouva dans la loge, confirma les réponses de Madame d'Autray. Le baron avait sonné vers 11 heures du soir pour demander le cordon et frappé vers 6 heures du matin pour s'en aller. Au cours de la nuit, personne n'avait passé ni dans un sens ni dans l'autre. Comme il n'y avait que 3 appartements loués et que les autres locataires ne sortaient jamais le soir, le contrôle était facile. Quelqu'un d'autre que vous peut-il, de l'intérieur, ouvrir la porte? Pour ça, non. Il faudrait entrer dans ma loge et je ferme à clé et au verrou. Madame d'Autrey sort quelquefois dans la matinée? Jamais. C'est Anna, leur vieille bonne, qui fait le marché. Tenez, la voilà qui vient de l'escalier de service. Il a le téléphone dans la maison? Non. Victor s'en alla, perplexe, partagé entre des idées contradictoires. Au fond, quelles que fussent les charges relevées contre le baron, il était impossible de mettre en doute l'alibi que les circonstances imposaient en sa faveur. À l'instant du crime, il se trouvait auprès de sa femme. À la gare où il retourna, après son déjeuner, il posa cette question. Le baron d'Autrey, dont le passage est forcément remarqué lorsqu'il y a peu d'affluence, a-t-il pris ce matin un des premiers trains? La réponse fut unanime et catégorique, non. Alors, comment s'en était-il allé de Garches? Tout l'après-midi, il recueillit des renseignements sur le ménage d'Autrey auprès des fournisseurs, du pharmacien, des autorités, des employés de la poste. Cette tournée, où il se rendit compte du peu de sympathie qu'ils inspiraient, le conduisit nécessairement chez leur propriétaire, M. Gustave Jérôme, conseiller municipal et négociant en bois et charbon, dont les démêlés avec le baron et la baronne divertissaient le pays. M. et Mme Jérôme possédaient une belle villa, également sur le plateau. Dès l'entrée, Victor sentit l'aisance et la richesse et constata la discorde et l'agitation. Ayant pénétré dans le vestibule après avoir sonné vainement, il entendit le bruit d'une querelle au premier étage, des claquements de porte, une voix d'homme, ennuyée et sans aigreur, une voix de femme, stridente et furieuse, qui criait « Tu n'es qu'un ivrogne !»« Oui, toi, M. Gustave Jérôme, conseiller municipal, est un ivrogne. Qu'as-tu fait hier soir à Paris ?»« Tu le sais bien, ma petite, un dîner d'affaires avec Deval. »« Et avec des poules, évidemment !» Je le connais, ton Deval, un noceur. Et après le dîner, les folies bergères, hein? Les femmes nues, le dancing, le champagne. Tu es folle, Henriette. Je te répète que j'ai ramené Deval en auto à Suresnes. À quelle heure? Je ne saurais dire. Évidemment, tu étais ivre. Mais il devait être 3 ou 4 heures du matin. Seulement, tu profites de ce que je dormais. La dispute dégénérait en bataille. M. Jérôme se précipita vers l'escalier qu'il dégringola, poursuivi par son épouse, et aperçut le visiteur qui attendait dans le vestibule et qui aussitôt s'excusa. J'ai sonné. Personne ne répondant, je me suis permis. Gustave Jérôme, un assez bel homme d'environ 40 ans, au teint fleuri, se mit à rire. Vous avez entendu? Une petite scène de ménage. Aucune importance. Henriette est la meilleure des femmes. Mais entrez donc dans mon bureau. À qui ai-je l'honneur? « Inspecteur Victor, de la brigade mondaine. »« Ah, l'histoire du pauvre père Lescaut. »« Je viens plutôt, » interrompit Victor, « me renseigner sur votre locataire, le baron d'Autrey. »« En quels termes êtes-vous tous les deux ?»« Très mauvais termes. » »« Ma femme et moi, nous avons occupé durant 10 ans l'appartement que nous leur louons maintenant dans notre immeuble, et c'est un déluge de réclamations, chicanes, exploits d'huissier, et pour rien. » Par exemple, au sujet d'une deuxième clé de l'appartement que je leur ai remise et qu'ils prétendent n'avoir pas reçue. Bref, des bêtises. Et finalement, bataille, dit Victor. Vous savez donc? Ma foi, oui, bataille, fit en riant Jérôme. J'ai reçu en plein nez un coup de poing de la baronne. Qu'elle regrette, j'en suis sûr. Elle, regretter quelque chose? S'écria Madame Jérôme. Elle, cette chippie, cette grande rose qui passe son temps à l'église. Quant à lui, monsieur l'inspecteur, un homme taré, ruiné, qui ne paye pas son loyer et qui est capable de tout. Elle avait une jolie figure, aimable et sympathique, mais une voix éraillée, faite pour les invectives et la colère. Son mari, d'ailleurs, dut lui donner raison et fournit des renseignements déplorables. Faillite à Grenoble, histoire malpropre à Lyon, tout un lourd passé de fraude et de tripotage. Victor n'insista pas. Il entendit derrière lui la querelle qui se ranimait et la voix de la dame qui glapissait. « Où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fichu? Tais-toi, sale menteur !» En fin d'après-midi, Victor s'installa au café des sports et parcourut les journaux du soir qui ne relataient rien de spécial. Mais plus tard, on lui amena un monsieur et une dame de Garches qui arrivaient de Paris et qui assuraient avoir vu aux environs de la gare du Nord le baron d'Autrey dans un taxi avec une jeune femme. Sur le siège, près du chauffeur, 2 valises. Était-ce une certitude? Victor savait mieux que personne combien ces sortes de témoignages sont sujets à caution. En tout cas, pensa-t-il, Le dilemme est simple. Ou bien le baron s'est enfui en Belgique avec les bons de la défense, et avec une dame qui pourrait bien être la belle créature que j'ai revue dans l'encadrement de la fenêtre du père Lescaut, ou bien il y a erreur, et il arrivera ici dans un instant par son train habituel, et alors c'est que, malgré toutes les apparences, la piste est fausse. À la gare, Victor retrouva Vaillant près de la sortie des voyageurs. Le train était signalé. On le vit bientôt qui débouchait au tournant. Une trentaine de voyageurs en descendirent. Vaillant poussa Victor du coude en murmurant « Celui-là qui vient, par-dessus gris foncé. Chapeau mou, c'est le baron. » Chapitre 3e. L'impression de Victor ne fut pas défavorable. L'attitude du baron ne trahissait pas la moindre agitation, et sa figure paisible, reposée, n'était pas celle d'un homme qui a tué 18 heures auparavant et qui est harcelé par le souvenir, l'angoisse de ce qu'il va faire et l'épouvante de ce qui peut advenir. C'était la figure d'un homme qui accomplit, selon le rythme ordinaire, sa besogne quotidienne. Il salua l'employé d'un signe de tête et s'éloigna par la droite vers sa demeure. Il avait à la main un journal du soir, plié, avec lequel il frappait distraitement les barreaux des grilles sur son passage. Victor, qui le suivait à une certaine distance, hâta le pas et atteignit l'immeuble presque en même temps que lui. Sur le palier du 4e étage, comme l'autre tirait sa clé, il lui dit « Le baron d'Autray, n'est-ce pas ? Vous désirez, monsieur ?» Quelques minutes d'entretien. « Inspecteur Victor, de la brigade mondaine. » Incontestablement, il y eut choc, désunion, effort de volonté, les mâchoires se contractèrent. Ce fut rapide, et après tout, ce pouvait être l'effet tout naturel que produit sur les plus honnêtes gens la visite inopinée de la police. Madame d'Autray brodait près de la fenêtre, dans la salle à manger. En avisant Victor, elle se leva d'un coup. « Laisse-nous, Gabriel, » fit son mari après l'avoir embrassé. Victor prononça « J'ai eu l'occasion de voir déjà madame ce matin, et notre conversation ne peut que gagner à sa présence. »« Ah !» fit simplement le baron, qui ne parut pas davantage étonné. Il reprit en montrant son journal. « Je viens de lire votre nom, monsieur l'inspecteur, à propos de l'enquête que vous poursuivez, et je suppose que vous désirez m'interroger comme abonné de la ligne et familier du train de 6 heures. Je puis vous dire tout de suite que je ne me rappelle plus avec qui je me trouvais lundi dernier, et que je n'ai noté aucun manège suspect, aucune enveloppe jaune. » Madame d'Autray intervint d'une voix hargneuse. « Monsieur l'inspecteur est plus exigeant, Maxime. Il voudrait savoir où tu étais cette nuit, tandis que l'on commettait un crime au haut de Garches. » Le baron sursauta. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Victor présenta la casquette grise. « Voici la casquette que portait l'agresseur et qu'il achetait dans un enclos voisin. Ce matin, Madame d'Autray m'a déclaré qu'elle vous appartenait. » D'Autray rectifia. « Elle m'a appartenu, plutôt. Elle était dans le placard de l'antichambre, n'est-ce pas, Gabriel ?» dit-il à sa femme. « Oui, il y a 2 semaines environ que je l'ai rangée. Et il y a 1 semaine que moi, je l'ai mise à la boîte à ordures, ainsi qu'un vieux cache-nez mangé au verre. Un vagabond l'y aura recueilli. Ensuite, monsieur l'inspecteur, mardi soir et mercredi soir, aux heures mêmes où vous êtes sorti, on a vu rôder autour de la bicoque l'homme qui portait cette casquette. J'avais mal à la tête, je me suis promené, mais pas de ce côté. Par où ? Sur la grande route de Saint-Cloud. Vous avez rencontré quelqu'un ? Probablement, mais je n'ai pas fait attention. Et hier soir, jeudi, vous êtes rentré à quelle heure ? À 11 heures. J'avais dîné à Paris. Ma femme dormait. Selon madame, vous avez échangé quelques paroles ? Tu crois, Gabriel ? Je ne me souviens plus. Si, si, fit-elle en s'approchant de lui. Souviens-toi. Il n'y a pas de honte à dire que tu m'embrassais. Seulement, ce que je te demande, c'est de ne plus répondre à ce monsieur. Tout cela est tellement inconcevable, tellement stupide. Son visage se durcissait, et ses joues lourdes et couperosées s'empourpraient davantage. « Monsieur accomplit son devoir, Gabriel, » dit le baron. « Je n'ai aucune raison pour ne pas l'y aider. Dois-je préciser l'heure de mon départ ce matin, monsieur l'inspecteur ? Il était 6 heures environ. Vous avez pris le train ?
Oui.
Cependant, aucun des employés ne vous a vu. Le train venait de passer. Dans ce cas-là, j'ai coutume d'aller jusqu'à la station de Sèvres, qui est à 25 minutes de distance. Ma carte d'abonnement m'en donne le droit. On vous y connaît ? Moins bien qu'ici, et les voyageurs y sont beaucoup plus nombreux. J'étais seul dans mon compartiment. » Il envoyait ses ripostes sans hésitation, d'un coup. Elles étaient formelles, et constituait un système de défense illogique qu'il était difficile de ne pas l'accepter, provisoirement du moins, comme l'expression même de la vérité. « Pourrez-vous m'accompagner demain à Paris, monsieur ?» dit Victor. « Nous y rencontrerons les personnes avec qui vous avez dîné hier soir et celles que vous avez vues aujourd'hui. » À peine achevait-il sa phrase que Gabriel Dautray se dressa près de lui, les traits bouleversés par l'indignation. Il se souvint du coup de poing lancé à M. Jérôme et eut l'envie de rire, car la dame avait un air comique. Elle se contint. Son bras s'allongea vers le mur où pendait une image sainte et elle prononça « Je jure, sur mon salut éternel !» Mais l'idée même du serment à propos d'attaque aussi misérable dut lui paraître inconvenante. Elle ébaucha un signe de croix, marmotta quelques mots, embrassa son mari avec tendresse et compassion et s'en alla. Les deux hommes restèrent debout l'un en face de l'autre. Le baron demeurait silencieux et Victor fut stupéfait de constater que la belle apparence de sa figure, calme et reposée, n'était pas naturelle et qu'il portait du rouge sur ses joues, un rouge violacé comme en portent beaucoup de femmes. Et il nota aussitôt l'extraordinaire lassitude des yeux cernés de noir et de la bouche au coin tombant. Quelle transformation subite et qui semblait s'aggraver de seconde en seconde. « Vous faites fausse route, monsieur l'inspecteur, » dit-il gravement. « Mais il advient que votre enquête, par un contre-coup injuste, entre en plein dans ma vie secrète et m'oblige à une confession pénible. En dehors de ma femme, pour qui j'éprouve surtout de l'affection et du respect, j'ai depuis quelques mois une liaison à Paris. C'est avec cette jeune femme que j'ai dîné hier soir. Elle m'a conduit jusqu'à la gare Saint-Lazare et ce matin, je la retrouvais dès 7 heures. « Conduisez-moi chez elle demain, » ordonna Victor. « Je viendrai vous chercher en auto. » Le baron hésita, puis, à la fin, répondit « Soit. » Cette entrevue laissa Victor incertain, soumis tour à tour à des sentiments et à des raisonnements dont aucun ne correspondait à une réalité indiscutable. Le soir de ce vendredi, il s'entendit avec un agent de Saint-Cloud pour surveiller la maison jusqu'au milieu de la nuit. Il ne se produisit rien de suspect.